dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et avant d'accueillir nos invités pour débattre de l'impact des violences post-électorales aux États-Unis sur l'image et la démocratie du plus puissant pays au monde, nous retrouvons en direct de Madrid en Espagne notre invité pour parler d'un sujet plus détendu. Et cela fait du bien, on est vendredi. Il s'agit de l'internationale camerounaise de football, l'attaquante Adjaran Chout. Bonsoir mademoiselle.
Ouais, bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonne année à vous.
Merci, bonne année à vous. Bonne année à vous et à toute votre équipe.
Merci. Alors, mardi, l'officialisation de votre arrivée à Atlético Madrid a été l'une des grosses actualités sportives du jour. Comment vous vous sentez au sein de votre nouveau club?
Très bien, il faut dire que c'est aujourd'hui que j'ai commencé les entraînements avec le groupe parce que quand je suis arrivée, les papiers n'étaient pas encore complets pour que je débute avec le groupe, donc ça se passe plutôt bien et l'accueil est vraiment magnifique.
Et vous avez commencé donc vos entraînements. Parfois, vos collègues footballeurs s'amusent à dire que l'intégration est plus facile chez les hommes, l'ambiance plus amicale et chaleureuse que chez les femmes. Est-ce que c'est vrai?
Non, pas du tout. Ça dépend comment toi aussi tu arrives dans le club parce que je suis quelqu'un qui aime s'amuser. Donc, quand j'arrive, je me comporte comme une ancienne. Donc, ça fait en sorte que ça facilite l'intégration pour moi.
Donc, l'ambiance est bonne à la fois sur la pelouse et dans les vestiaires.
Oui, très bien. Et bizarrement, il a neigé aujourd'hui en Espagne. Ils m'ont dit que ça fait 4 ans qu'ils n'avaient pas neigé comme ça. Donc, pour eux, c'est un peu bizarre.
Oui.
Par contre, en novembre, où je sors... Il neige tous les jours. Donc, je suis un peu habituée.
D'accord. On parlera dans un instant justement de votre départ de Norvège. Est-ce qu'il y a eu un peu de bizutage, comme c'est souvent le cas? Et comment cela s'est passé?
Bien sûr, il y a toujours le bizutage. Quand tu arrives dans un club, ça s'est passé très bien. Et il faut rappeler que l'équipe d'Atlético de Madrid compte 17 joueuses qui viennent d'ailleurs. Donc, ça fait en sorte que les gens ont les mentalités différentes.
Et racontez-nous comment s'est passé votre bizutage alors?
Ah, comme d'habitude, on te demande parfois de chanter un morceau préféré et puis tu montes les pas de danse à tes coéquipiers.
Et qu'est-ce que vous avez dansé? Sur quel rythme, camerounais ou africain ou autre?
Camerounais, parce que je suis un enfant du Cameroun et je valorise un peu la culture de chez nous. J'ai dansé sur un son que j'aime souvent, qui vient de la rue. Du Cameroun, on appelle Mbolé. On chante le pied des Yagami, le pied des Yagavi.
C'était assez marrant, j'imagine. Alors, Ndjoya Adjaran Chout, vous arrivez donc auréolé du titre de champion de Norvège avec votre ancien club, le Vålerenga Football d'Amer. Est-ce que cela vous donne une petite avance par rapport à vos coéquipières ou cela vous met plutôt plus de pression?
Non, ça ne me met pas en avant parce que quand tu arrives dans un club, tu trouves une équipe qui était déjà en place, il faut te battre pour gagner ta place dans le stade du football. Donc pour moi, j'arrive comme une nouvelle. C'est un devoir pour moi de mouiller le maillot dans un stade pour prouver au coach que je mérite ma place de 11 ans.
Vous avez donc signé pour 3 ans et quand on arrive dans un nouveau club, on a forcément beaucoup d'ambition. Quelle est la vôtre? Peut-être devenir championne d'Espagne aussi avec Atlético Madrid? Qui est aujourd'hui vice-champion d'Espagne?
Bien sûr, quand tu arrives dans un club, il faut toujours se fixer des objectifs. Donc, pour moi, c'est de remporter les trophées avec le club.
D'accord. Et peut-être aussi, pourquoi pas être championne d'Europe et détrôner enfin le club français, l'Olympique Lyonnais?
Ouais, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je suis joueuse de l'Atlético de Madrid. Je veux me contenter du moment de donner le meilleur de moi dans le stade du football.
Ndjoya Adjaran Chout, merci beaucoup d'être notre invité dans Décryptage et d'avoir été en direct avec nous d'Espagne.
Merci beaucoup et bonne soirée à vous.
Merci.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que ce soir, dans le grand rendez-vous, nous parlons des événements qui ont eu lieu mercredi au Capitole aux États-Unis entre forces de l'ordre et manifestants pro-Trump qui ont pris d'assaut le Capitole, le siège du Congrès américain. Et nos invités pour en débattre sont déjà en ligne. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, bonsoir.
Bonsoir Liliane Nata, bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut des Relations Internationales, l'ancien directeur, pardon, de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et vous avez signé un dernier ouvrage sur Cheikh Anta Diop.
Oui, c'est exact. En fin 2020, un ouvrage est sorti sur Cheikh Anta Diop, intitulé « Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales ».
Et vous vous rendrez bientôt au Sénégal justement pour la promotion de ce livre. Nous aurons l'occasion d'en parler, professeur Pondy.
Bien, oui.
Et en ligne de New York, Mokhtar Gawad, ancien rédacteur en chef à France 24 et à TV5 en France. Aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis, Mokhtar Gawad. Bonjour ou bonsoir.
Bonjour Liliane, bonjour aux auditeurs d'Africa numéro 1.
Et nous avons le plaisir également d'accueillir Joseph Smallhover, qui est membre du Parti démocrate ici en France. Monsieur Smallhover, bonsoir.
Bonsoir. Je suis également membre du comité national du Parti démocrate aux États-Unis.
Donc, membre
Democratic
du...
National, okay. Democratic National Committee.
D'accord, membre du comité des démocrates aux États-Unis. D'accord, merci d'être avec nous. Et nous tenons à souligner que nous avons contacté les représentants du Parti républicain ici en France. Il y en avait trois précisément, et ils n'ont pas souhaité participer à cette émission donc consacrée aux tensions qui ont eu lieu mercredi au Capitole. Et nous allons donc commencer avec vous, messieurs, notre débat. Les mots ont été forts, hein, les qualificatifs très nombreux pour évoquer les événements de mercredi au Capitole, où les partisans de Trump ont envahi le Congrès. Et messieurs, je ne vous refuserai pas le droit de dire par vos propres mots, vous aussi, ce qui s'est passé. Je commence par vous, Mokhtar Gawad. Comment avez-vous vécu ces événements? Quelle a été votre première réflexion en regardant ces images et cette scène de chaos aux États-Unis, au Congrès, au Capitole?
Alors, ce qui s'est passé mercredi 6 janvier, n'est plus ni moins qu'une tentative de coup d'État. Je pèse mes mots, oui, les États-Unis ont fait échouer un coup d'État, une tentative de coup d'État ce 6 janvier. C'est hallucinant car ce genre d'actualité, nous le voyons ailleurs, dans d'autres pays, notamment en Afrique ou en Amérique latine ou en Europe dans les années 80. Mais tout de suite, je dis, les institutions américaines sont si solides que ce coup a échoué. Que voulait Trump, en fait? Il voulait tout simplement arrêter l'ultime étape qui était de valider l'élection du mois de novembre dernier. Il voulait que ses partisans prennent le contrôle d'un processus démocratique pour changer le résultat final. Ça, c'est la définition d'un coup d'État. Mais vraiment, il faut dire que la Constitution américaine, le texte est si bien réfléchi, si bien équipé dans son équilibre des pouvoirs qu'il a sauvé aujourd'hui l'Amérique. Mais cela n'est pas une surprise. J'ai toujours dit que les États-Unis ont des institutions solides et qu'ils les sauveraient de toute velléité.
De prise de pouvoir de manière antidémocratique. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, réaction aussi, vue de Yaoundé?
Oui, effectivement, je suis d'accord avec le précédent intervenant.
Mokhtar Gawad.
Mais j'ajouterais, moi, coup d'État constitutionnel. Parce qu'en fait, c'est contre la Constitution des États-Unis, qui date de 1787, et qui a été effectivement très très solide jusqu'à présent. Et je crois que cela procède aussi de la naïveté politique de M. Donald J. Trump. Parce que, en fait, de croire honnêtement qu'on peut procéder comme ça pour tourner en dérision tout un processus qui date de centaines d'années, je crois que ça relève d'une très grande naïveté politique. Aujourd'hui, la preuve, c'est qu'il est dans des problèmes, parce que ce qui s'est passé est quasiment inédit. Comme va nous le dire certainement l'intervenant américain du Parti démocrate, c'est en 1814, je crois bien, que le bâtiment du Congrès a été agressé, dans le sens où il a été brûlé par les Anglais. Donc depuis ce temps-là, il n'y a pas eu ce type d'agression au niveau du Capitole, c'est-à-dire les deux chambres parlementaires, Sénat d'un côté et chambre des représentants de l'autre. Donc je crois que nous avons été choqués, bien sûr. Je crois que la plupart des Africains n'en revenaient pas de voir ce qui se passait aux États-Unis, à Washington, parce que nous sommes ici habitués à recevoir des leçons de démocratie, des leçons de bon comportement.
On viendra justement, professeur, sur les conséquences de cette action. C'est le thème de notre débat ce soir, à la fois au plan national aux États-Unis et au plan international. Monsieur Joseph Smallhover, insurrection, coup d'État constitutionnel, on vient de l'entendre respectivement des deux précédents intervenants. Comment est-ce que, au sein de votre parti, la famille démocrate a vécu tout cela au-delà des mots?
Extrêmement difficile à dire, parce que c'était tellement bouleversant, tellement ahurissant, tellement incroyable de ce qui s'est passé. Le professeur vient de parler effectivement de la dernière fois qu'il y avait une insurgence dans le Capitole, quand les Anglais l'ont brûlé dans la guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, qui était liée avec la guerre napoléonienne. En 1814, ils avaient également brûlé la Maison Blanche. Il y avait des photos de certaines de ces insurrectionnistes portant le drapeau de guerre des pays sudistes esclavagistes qui étaient utilisés pendant la guerre civile. Et c'était la première fois que ce drapeau a été porté à l'intérieur du Capitole. Parce que 150 ans plus tôt, le simple fait de porter le drapeau était la trahison.
Donc ça fait ressortir un peu, réjaillir un peu ce mercredi-là, la face plutôt sombre de l'histoire politique américaine.
Tout à fait. Ça a toujours été là. Certains personnages, certaines tendances. Mais là, Trump a su, même s'il était très naïf au niveau sur la politique, c'était une fin utilisateur des médias, et il a su utiliser les médias pour aiguiser ces personnes et pour les attirer dans les mensonges qu'il crée.
Les médias et surtout son compte Twitter aussi.
Oui, mais tous les médias, utiliser Facebook, utiliser Twitter, mais aussi chaque fois qu'il ouvre la bouche, il ment. Tout à l'heure, hier, il a fait un discours où il avait finalement dit qu'il accepterait la transition paisible du Biden.
Même s'il vient de déclarer aujourd'hui, M. Smallhover, qu'il ne sera pas à l'investiture.
Mais tout à fait, tout à fait. Mais hier, il a dit, bon, il a accepté de faire une transition, mais il a dit également que c'est lui qui avait envoyé la garde nationale pour protéger le Capitole. Et c'est absolument pas vrai. Il a menti même en admettant qu'il coopérait avec Biden. C'est le vice-président Pence qui a ordonné la venue de ses troupes pour protéger la Capitole, pas Trump. Donc mais, nous, Parti démocrate, pour nous, c'est certainement un sens que c'est de la sédition et peut-être même un niveau même de trahison.
On verra quelles en sont les conséquences judiciaires tout à l'heure. Mais Mokhtar Gawad, Monsieur Smallhover vient de le dire, oui, Trump a enfin reconnu sa défaite jeudi et a déclaré qu'il se consacrerait à une transition paisible. Mais en même temps, aujourd'hui, vendredi, il déclare qu'il ne sera pas finalement à la passation de service. Est-ce que c'est cohérent? Comment analysez-vous cette prise de position entre hier, celle d'hier et la seconde d'aujourd'hui?
Ce n'est pas une surprise, tant Trump a multiples faces. Hier, effectivement, contraint par ses très proches collaborateurs et surtout sa fille aînée, il a été obligé d'aller devant les caméras pour enregistrer un discours écrit. Et une fois qu'il a dit ce discours, revient la vraie face et le vrai tempérament de l'actuel président. Donc, il est en pleine contradiction et il a besoin d'un côté d'assurer, si vous voulez, de rassurer sa base comme d'habitude et de lui dire qu'il ne l'oublie pas. Et de l'autre, il a aussi, il a l'obligation de montrer aux peu de gens qui l'entourent encore à la Maison-Blanche qu'il a compris la situation et la gravité de la situation. Et ses conseils juridiques au sein de la Maison-Blanche lui ont fait croire qu'il courait des risques important sur le plan judiciaire s'il ne reconnaissait pas la gravité des choses et qu'il prenait distance avec ceux qui avaient commis justement cet acte insurrectionnel. Mais évidemment, il n'est pas à une contradiction près. Devant les caméras, il dit une chose et deux ou trois heures après, il dit son contraire. Donc, ce n'est pas étonnant. Peu de gens croyaient en ce qu'il disait et aujourd'hui, effectivement, en disant qu'il n'assistera pas à la passation de pouvoir, à l'intronisation de son successeur. Et tout à l'heure encore, il a dit, il a menacé les républicains qui voteraient sa destitution, parce que je vous rappelle que les démocrates sont en train de rédiger des articles pour une seconde destitution de Donald Trump et lui-même vient de tweeter, vient de faire connaître sa position en menaçant les républicains qui voteraient sa destitution. Donc, il Merci. N'est absolument pas, il n'a absolument pas abandonné.
Merci.
Et encore une fois, il n'est pas à une contradiction près.
Professeur Pondi, alors, Mokhtar Gawad parlait tout à l'heure de la pression de sa fille, mais il y a aussi l'attitude de son vice-président, Mike Pence, et aussi le lâchage de certains membres de son entourage. Le chef de la police a démissionné, et il y a aussi un autre ministre qui a quitté le navire. Est-ce que tout cela n'a pas finalement convaincu Donald Trump de ce que il s'est rendu compte effectivement qu'il était de plus en plus seul?
Je dirais pas du tout. Je pense que, comme l'a dit M. Ouazad, je pense.
M. Smolhova.
En réalité, aussi, je crois que c'est un monsieur qui est enfermé dans son propre monde, qui voit les choses à sa manière et qui attend que tout le monde les voit comme il les voit. Alors, la preuve qu'il n'a pas changé du tout, c'est que pendant que l'insurrection était en cours, il n'a pas cru devoir parler devant les symboles de l'État, des États-Unis, puisqu'il a parlé à partir d'un jardin, avec aucun sceau de la présidence de la République. Deuxièmement, il n'a pas appelé en tant que commandeur en chef des forces armées américaines, il n'a appelé aucune des forces à intervenir au Capitole pour sauver la situation.
Monsieur Smolov disait qu'il avait, il a affirmé que c'est lui qui avait donné l'instruction.
Il a plutôt menti.
Alors que c'était son vice-président.
C'était pas lui, justement. Enfin, quand on dit qu'on accepte la défaite, ça se termine par un appel de félicitations. Je crois que c'est comme ça que ça s'est toujours passé. De félicitations à son successeur. Il ne l'a jamais fait. Donc ça veut dire que tout ce que M. Trump avance, c'est vraiment du bout des lèvres.
Et il le fait à contre-cœur.
Personne ne devrait y croire, certainement pas lui-même.
Merci.
Donc je crois que il nous a montré sa manière de fonctionner, sa mécanique politique, et il a toujours une seule priorité, me semble-t-il, c'est satisfaire sa base qui le soutient.
Merci
beaucoup. Moi j'appelle cela la transformation de la politique américaine, c'est ce qu'il a réussi à faire.
Merci. Merci, professeur Pondi. On vous retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
18h30 à Paris et à Yaoundé, et nous sommes avec nos invités pour parler des conséquences politiques des événements de mercredi dernier au Capitole. Je rappelle que le bilan humain est de 5 morts, mais il y a une autre facture, celle-là plus difficile à chiffrer, c'est bien le coût de ces incidents sur la démocratie américaine au plan national et international. Nos invités sont Joseph Smallhofer, membre du Parti démocrate ici en France. Il est également membre du comité du Parti démocrate aux États-Unis. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun à Yaoundé, et Mokhtar Gawad, ancien rédacteur en chef à France 24 et TV5. Il vit aujourd'hui à New York. Je vais vous passer la parole, monsieur Smallhofer. On parlait tout à l'heure de la procédure de destitution de Donald Trump. Où en est-elle et est-ce que le Parti démocrate y croit cette fois?
On pense beaucoup à la première partie qui est l'impeachment, qui est en fait l'équivalent de la mise en examen. Est-ce qu'on n'arrivera pas à le destituer d'ici la fin de son mandat? C'est autre chose. Tout simplement parce que le calendrier est extrêmement serré.
L'investiture, c'est le 20 janvier.
Oui, tout à fait. Et donc, le processus est... D'abord, ça doit commencer dans la Chambre des représentants, qui est la majorité aujourd'hui démocrate. Et là, on est certain de pouvoir envoyer le impeachment en tant que tel, donc la mise en examen. Mais ensuite, il faudrait que le procès soit instruit et qu'il passe devant le Sénat, qui est obligé de répondre, mais selon ses propres règles. Et là, aujourd'hui, le Sénat est à majorité républicain. Demain, ça dépend de la date à laquelle il y aura effectivement le procès devant le Sénat, mais ça peut être soit 50-50, soit 50 républicains et 48 démocrates encore. Donc, on peut très bien faire l'impeachment, mais la deuxième partie, la destitution, c'est moins sûr. Mais il y a une autre possibilité qui est le 25e amendement à la Constitution qui prévoit la possibilité également pour le vice-président avec la majorité des ministres à suspendre la présidence du président pour une raison d'incapacité, pas expliquer ce que c'est l'incapacité d'ailleurs, mais incapacité, et ensuite, si le président juge qu'il est capable, il peut dire non, il écrit au Sénat. Ensuite, le vice-président reste, par contre, le président intérimaire, et il y a une procédure. Bon, ça c'est facile, mais il suffit... mais ont besoin des républicains de le faire. Est-ce qu'ils ont le courage de le faire ou non?
Et parlant du courage, je voudrais, vous, M. Smallhofer, que vous analysiez très rapidement et brièvement la réponse de Joe Biden après ces événements. Certains ont trouvé sa sortie un peu timide, pas assez forte comme on attendait le futur chef de l'armée, le commandant en chef. Est-ce que ça a été aussi une impression que vous avez eue au sein de votre parti?
Bon, Monsieur Moussawad est là, il peut dire comment c'était à New York, il peut voir...
Mais vous êtes du parti, comment vous avez jugé la sortie de votre chef?
Mais laissez-moi terminer. Il veut voir le résultat sur place. Nous, on pensait qu'il devait jouer le rôle présidentiel, c'est-à-dire qui ferme, mais raisonné, raisonnable, quelqu'un qui va réunir le pays... et c'est ce qu'il a fait. C'est exactement l'inverse de ce que nous avons vécu pendant 4 ans. Joe Biden a essayé de, tout en disant que c'était une insurrection, il a voulu aussi calmer le jeu et unifier le pays, à la différence de Trump qui jette de l'huile sur le feu.
Mais justement, à force de vouloir être le contraire de Trump, celui que Trump appelait Sleepy Joe, ne risque-t-il pas de prêter vraiment le flanc aux partisans de Trump qui ont vite fait de reprendre son nom ainsi?
Je ne pense pas. Le peuple américain a soufflé un grand
soulagement.
Mon Dieu, soulagement de mon Dieu, thank God this is over.
Merci Dieu.
Merci Dieu que c'est terminé. On n'en pouvait plus. Et d'ailleurs, sauf ce qui est encore plus étonnant des événements de mercredi, tout le monde pensait, pas tout le monde, moi personnellement, j'attends encore des pires des choses d'ici le 20 janvier, mais beaucoup de monde pensait, enfin c'est fini, il va s'en aller, on va retourner à une situation normale, et c'est ça ce que Biden a essayé de prouver, allez avoir une situation normale, et pas cette situation de dyspolitique extraordinaire.
Situation normale vu les démocrates, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que il y a 2 millions d'Américains qui ont accordé leur voix au président sortant, Donald Trump. Mokhtar Gawad, on ne va pas revenir sur l'attitude du président Biden, sa réponse ces événements du Capitole. Mais je voudrais qu'on parle un peu de cette audio révélée et diffusée dans laquelle M. Trump demandait à un responsable républicain de lui trouver un peu plus de 11 000 voix pour qu'il gagne les élections. Au-delà de l'incident du Capitole, est-ce que ce n'est pas un incident qui peut lui coûter sa liberté?
Oui, mais je veux quand même dire une ou deux phrases sur ce qu'avait dit Biden et ce que vous avez...
Le temps s'égrène, je ne voudrais pas être obligé de vous interrompre, messieurs, à la fin de l'émission. Okay. Donc, très vite, s'il vous plaît.
Bien entendu que sur... C'est Trump qui demandait au ce qu'on appelle le ministre, le secrétaire d'État en Géorgie de lui trouver 11 000 voix pour qu'il retourne justement l'élection, le résultat en Géorgie. Oui, ça fait partie des choses qui peuvent coûter des ennuis judiciaires plus tard à Trump. C'est absolument proscrit par la loi que d'essayer d'inciter justement à quelqu'un qui triche, il faut dire... À la fraude électorale, et ça c'est répréhensible par... aussi bien la loi en Géorgie, et c'est pour cela qu'il y a une enquête déjà ouverte en Géorgie par les procureurs locaux, et aussi bien sur le plan fédéral. Donc il y a tout un arsenal judiciaire qui est là, et je suis sûr qu'il va être activé, quoique Trump sera simple citoyen, mais il a l'habitude d'être devant les tribunaux, et il joue justement sur l'ensemble de ses appels qu'il peut faire, et il l'a fait durant toute sa vie, aussi bien d'homme d'affaires ici à New York qu'en tant qu'homme politique ou candidat à sa propre succession. Comme il peut se payer beaucoup d'avocats, il va certainement le faire. Mais je pense qu'il va avoir évidemment des poursuites judiciaires sur ce plan-là, notamment sur ce qui s'est passé en Géorgie, en essayant d'avoir plus de voix.
11 780 voix, plus exactement. Et soulignons également, professeur Pondy, qu'un tribunal irakien a délivré jeudi un mandat d'arrêt national contre le président sortant dans le cadre d'une autre affaire relative à l'élimination d'un puissant commandant des en Irak, qui a été tué l'année dernière aux côtés du général iranien Soleimani. Professeur Pondy, je voudrais qu'avant qu'on aborde les conséquences même de cette crise aux États-Unis, dites-nous rapidement, le fait d'avoir laissé, depuis le début, Donald Trump enchaîner ses accusations sur des médias américains qui lui sont favorables ou sur son compte Twitter, mais aussi répandre le déni, est-ce que ça n'a pas conduit à cette situation? Est-ce que finalement, on ne pouvait pas s'attendre à une telle... à ce que la crise arrive à une telle phase comme celle à laquelle on a assisté mercredi plutôt?
Je pense que c'est l'aboutissement non pas de 3 ou 4 mois de trumpisme, mais c'est plutôt l'aboutissement de 4 années d'un comportement qui est aux antipodes de ce qu'on s'attend à voir un habitant de la Maison Blanche dévoilé. En fait, M. Trump s'est attelé, selon moi, à détricoter tout ce que l'administration Barack Obama, Joseph Biden a tricoté, Et c'était ça sa mission. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il a été très soutenu par la base, je dirais la base qui est surtout une base raciste, une base ségrégationniste, et dont...
Suprémaciste.
Raciste, ségrégationniste, dont le lieu de prédilection, malheureusement, se trouve dans l'ancien sud des États-Unis, et surtout le sud profond. Quand vous allez en Alabama, Tennessee, quand vous allez en...
Mais même ton professeur Pondy, ce sont des Américains aussi.
Mais eux, ils présentent les autres comme
au nom de liberté individuelle.
Ils présentent les autres comme
la liberté d'expression, oui.
Et eux étant les vrais Américains. Si vous écoutez bien la rhétorique de M. Trump, et même ce que répétaient ceux qui étaient au Capitole, c'est qu'ils veulent sauver l'Amérique. Vous comprenez? Donc, ils veulent la sauver de qui? De ceux dont ils pensent qu'ils ne sont pas des vrais Américains. Et c'est ce travail de division et de haine qu'on peut surtout regretter de la part de celui qui, justement, sur le plan de la politique américaine, est le grand rassembleur. On a parlé
qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'avait pas vu venir ces violences et que on ne les redoutait pas.
C'est la suite logique d'une posture qui ne fait qu'arriver à son paroxysme, c'est tout. Et ceci est d'autant regrettable que le rôle du président, il a un rôle de tribunicien, c'est-à-dire qu'il utilise le micro et la Maison-Blanche comme justement un point de rassemblement de toute l'Amérique dans sa diversité. Monsieur Trump a fait exactement le contraire, a divisé l'Amérique, a inculqué la haine entre les Américains, alors que l'Amérique est forte, à mon avis, précisément parce qu'elle est diverse.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Smallhover, on entend le professeur Pondy dire que le discours de haine, de division entretenu pendant 4 ans par Trump a donné finalement le résultat qu'on connaît. Maintenant, il y a mort d'homme, 5 personnes tuées. Qui en porte le chapeau?
C'est très clairement Trump et ses alliés. Sur le plan politique et juridique. Sur le plan juridique, l'incitation à la violence, l'incitation à l'insurrection, ce sont des crimes capitaux, anciennement punis aussi, et peut-être encore aujourd'hui, malheureusement, par la peine de mort, mais sur le plan politique également, ils ont cherché, quand on entend certains de leurs discours, ils ont cherché effectivement de défendre une Amérique qui n'existe pas et qui est-ce qu'elle a jamais existé. Quand il dit « Make America Great Again », les exemples qu'il donne sont l'Amérique des années 50. C'était avant la déségrégation, une période où les minorités étaient...
N'avaient pas de droit, même pas le droit de vote.
Non, ils avaient les droits, mais c'était extrêmement difficile à les utiliser.
D'accord, mais maintenant vous dites que Trump va en répondre, c'est-à-dire qu'il y aura des poursuites judiciaires contre lui, parce qu'on imagine que les familles des victimes ne vont pas rester les bras croisés, et il faut bien qu'il y ait un coupable et une justice pour ces victimes.
C'est les 4 personnes qui sont mortes, les insurrectionnistes qui sont morts. Est-ce qu'ils vont pouvoir porter plainte contre Trump? Ne pense pas. Ils vont éventuellement porter plainte contre la police. Mais là, à mon avis, étant donné partie d'une émeute, ils vont avoir beaucoup de difficultés d'avoir gain de cause. Par contre, le policier qui a été tué, lui, il peut porter plainte civile contre Trump pour avoir incité cette violence. Et encore plus important, derrière... toutes les poursuites judiciaires qu'il peut y avoir, civiles, économiques aussi. Et bien entendu, ce personnage est quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent.
Merci beaucoup. On va marquer une dernière pause, messieurs, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour conclure ce débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Parlons ce soir des événements qui ont eu lieu mercredi dans la journée au Congrès américain à Washington, capitale fédérale américaine, avec nos invités, professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut de Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé, Joseph Smallhover, membre du Parti démocrate aux États-Unis, du comité, des démocrates aux États-Unis, représentant de ce parti ici en France, et Mokhtar Gawad, ancien rédacteur en chef à France 24. 4 et à TV5 qui vit à New York. Mokhtar Gawad, on va parler maintenant des conséquences de cette crise sur l'image des États-Unis. Le professeur Pandy parlait de cette grande puissance, hein, donneuse de leçons qui intervient à tout vent dans plusieurs crises au Venezuela, en Afrique. Est-ce que cette crise aujourd'hui n'enlève pas peut-être ce qui restait peut-être de la légitimité aux États-Unis de s'ingérer dans ces crises et de donner leur point de vue?
Absolument. Il n'y a aucun doute que l'Amérique de Trump a effectivement donné une image exécrable d'elle-même et se disqualifie de toute posture pour donner des leçons de démocratie. Et il n'y a que à voir les réactions des pays auxquels l'Amérique donnait des leçons. J'ai vu la réaction du président du Zimbabwe, la réaction de beaucoup de pays d'Amérique latine qui effectivement disent ce que disait le professeur Pondy. Et l'administration Biden, qui va rentrer justement au pouvoir, qui va prendre le pouvoir le 20 janvier, aura du mal, beaucoup de mal, à revenir justement sur ses, sur ce qu'a fait Trump. Mais je pense que la force économique des États-Unis, leur présence un peu partout dans le monde et leur présence surtout militaire va rendre les choses plus faciles qu'il ne paraît. Donc je ne serais pas étonné que très vite les États-Unis de Biden, l'administration Biden, va essayer de corriger tout cela. Mais la Chine, la Russie, les autres pays qui sont considérés ici comme les adversaires des États-Unis ont déjà montré effectivement les contradictions dans une de l'Amérique elle-même et veulent jouer.
Mais la position russe est beaucoup plus nuancée, hein, et presque difficile à classer.
Absolument, absolument, absolument. Non, mais je vous l'accorde et je l'accorde au professeur Pondy. Le département d'État aura beaucoup de travail et pour un long moment,
Merci.
Les Américains ne pourraient pas dire nous sommes nous sommes la vertu, nous sommes l'exemple démocratique qui a inspiré le monde. Voilà.
Professeur Pandy, du travail pour la démocratie américaine, la nouvelle démocratie internationale américaine?
Je pense qu'on peut lire ce qui s'est passé le 6 janvier à deux niveaux. D'abord, premièrement, la désacralisation même du parangon de la démocratie telle qu'elle était perçue par la plupart des pays. C'était vrai que beaucoup de pays considéraient effectivement les États-Unis comme l'exemple pratiquement indépassable de la démocratie. Donc ce qui s'est passé, c'est la désacralisation de ce principe et vraiment devant un monde ahuri, je dirais. Cependant, ce sentiment passé, on constate quand même que les institutions américaines ont démontré qu'effectivement, elles ne sont pas à la botte ni au service des individus qui sont quelquefois véreux.
Alors, mais des institutions.
La Cour suprême des États-Unis a rejeté 100% des allégations, je dirais, mensongères du président qui est en fonction à Washington, à la Maison-Blanche. C'est déjà une grande preuve d'un fonctionnement institutionnel qui est à féliciter. Deuxième chose, c'est que c'est bien le Parti républicain qui a mis ses propres hauts responsables en avant pour contrecarrer la tentative de monsieur Trump dans la personne du vice-président, monsieur Mike Pence, qui a refusé de suivre les injonctions, je dirais, de son patron direct, c'est-à-dire du président, et aller du côté du bon sens.
Merci.
Et du côté de la Constitution américaine. Mm. En fait, il s'agissait simplement de certifier, parce que les grands électeurs n'ont pas à discuter de quoi que ce soit ou à modifier quoi que ce soit, mais ils doivent certifier simplement les résultats. Donc, et il l'a fait. Ça montre quand même que, au plan institutionnel, l'Amérique, les États-Unis sont solides. Et c'est peut-être ce qu'on devrait également, une fois...
retenir de cette crise. C'est
on l'une... devrait retenir également.
Merci. Voilà. Merci pour ce point de vue. On va terminer avec vous, M. Joseph Smallhover. L'une des conséquences dans le plan international, ce sera, disaient les autres intervenants, les difficiles reprises à main au niveau diplomatique. Mais maintenant, au niveau national, aux États-Unis même, quelles sont les conséquences de ces événements?
Bon, effectivement, je pense que le monde était tellement, les gens sont tellement choqués que même si c'est pas encore fini, que beaucoup de républicains, de conservateurs, pas tout le monde bien entendu, mais beaucoup de républicains vont se rendre compte que leur propre parti était à la dérive et que il faudrait ne plus écouter. Ce sorte de démagogie que nous avons vécu pendant 4 ans. Je pense qu'il y a même une forte chance que cette fois-ci, que le Parti républicain se déchire.
Comme pour avoir un éclatement, une scission du parti.
Vous avez deux ailes, on l'a bien vu lorsque des votes pour validation des grands électeurs, qu'il y avait une fronde de certaines personnes qui soutenaient Trump à mort et qui attaquaient Mordicus, le Parti démocrate et les partisans démocrates, et un autre groupe qui disait, attendez, maintenant nous avons fait campagne, nous avons perdu, maintenant pour le bien de l'État, il faut maintenant se serrer les coudes et que tout le monde travaille dans le même sens. Donc, il y a un éclatement tout à fait possible. Et moi, quand je vois le paysage politique républicain, moi, je vois déjà au moins 4 personnes en liste de candidature pour 2024. C'est très clair et ce sont deux ailes.
Dans l'une des conséquences, c'est que le Parti républicain va définitivement tourner le dos à Donald Trump, qui espérait peut-être revenir en 2024, justement.
Je pense qu'ils ont, avec, je connais personne, j'ai des amis très conservateurs qui me disent, le fait qu'on soit conservateur ne veut pas dire qu'on soutient Trump ni liste de ce qui s'est passé. Donc, ils vont pas pouvoir rester ensemble, ces deux ailes du parti. Et donc, un éclatement, est-ce qu'il y a un nouvel parti républicain? Est-ce qu'il y a une nouvelle partie totalement différente? Mais je pense.
Allô?
Vraiment à la fin de la vie.
En deux mots, Monsieur Smallhover, sur cette arrogance qu'on a souvent reprochée aux États-Unis de se mêler des autres crises d'ingérence, est-ce que c'est aussi quelque chose qui va peut-être coûter cher aux États-Unis?
Aux États-Unis. Vos deux autres intervenants l'ont bien dit, on ne nous sommes plus. Le phare qu'on était pour la démocratie à cause de ça. Même
merci.
Si nos institutions n'ont pas cédé, mais on a montré quand même que l'Amérique n'est pas aussi fort
qu'on le pensait. Et qu'il est aussi vulnérable sur le plan démocratique. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur les conséquences de l'occupation du Congrès mercredi dernier par les pro-Trump. Merci à vous, Joseph Smallhover, membre du comité des démocrates aux États-Unis, représentant du Parti démocrate ici en France. Merci, professeur Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales IRICO du Cameroun, et Mokhtar Gawad, ancien rédacteur en chef TVC et France 24 à New York. Vous pouvez retrouver cette émission bientôt sur africaradio.com. Je vous retrouve demain à 12h sur Africa Radio dans le cadre du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonsoir.